Maintenant, on va faire un survol de ce qui se passe du côté de la Ligue nationale de hockey avec Marc-Antoine Godin du site The Athletic.
La chronique de Marc-Antoine Godin est une présentation d'Athletic.com, le plus grand magazine web quotidien de sport en Amérique. Profitez de 40% de rabais sur votre première année d'abonnement en allant au athletic.com/ l'amour du hockey.
Monsieur Godin, comment allez-vous?
Oh, Monsieur Rainville, bonsoir.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Ben oui, ça va bien. Le hockey va débuter en fin de semaine, le hockey des séries, ce qui sera fort intéressant. Et avant qu'on se lance dans les prédictions et ton analyse des différentes séries, je regardais quelles seront les oppositions, quelles seront les formations qui s'opposeront au premier tour. Il y aura des séries crève-cœur parce qu'on va perdre de bons clubs. C'est passionnant pour la première ronde, mais il y a des gros clubs qui peuvent sortir quand même.
Oui, absolument. Je trouve que en particulier la division Est, j'ai l'impression que, tu sais, dans cette division-là, avec Pittsburgh, les Islanders, les Capitals, les Bruins, t'as quatre très bonnes équipes là-dedans. Puis, tu sais, je pense que quand on regarde, quelle est la division la plus forte, quelle est la plus faible, tu sais, il faut que tu regardes quelle est la division où, finalement, les quatre pourraient l'emporter, puis je pense que c'est dans la division Est que ça se trouve. Donc, nécessairement, il va y avoir des confrontations qui vont donner lieu à des pertes importantes au premier tour. Puis également, dans la division centrale, je pense que le choc dès le premier tour entre les deux équipes de la Floride, ça va être bien belle fun.
Bon, ben justement, débutons avec la division Est. On a parlé, les Capitals de Washington qui ont terminé au deuxième rang vont affronter les Bruins de Boston. Troisième, gros choc de titans pour débuter tout ça. Zdeno Chara avec les Capitals de Washington va affronter ses anciens coéquipiers. Du côté des Bruins de Boston, Taylor Hall qui s'est amené depuis son arrivée, c'est 8 buts, 6 passes, 14 points en 16 matchs. C'est un troisième souffle pour Taylor Hall avec les Bruins. Comment tu vois cette série? Qui va sortir gagnant selon toi?
Ben écoute, je pense que c'est une série qui va être âprement disputée, mais j'ai tendance à donner l'avantage aux Bruins dans cette série-là. Je sais pas pourquoi. Les Capitals ont connu une bonne saison au plan statistique, mais il y a quelque chose, c'est bizarre, c'est comme je le sens pas. dans le cas des Capitals. Les Bruins, ça a peut-être été un peu moins convaincant. Il y a eu des moments où ça allait un petit peu moins bien. De manière générale, toutefois, c'est encore une équipe qui a une extraordinaire force de frappe. On connaît tous leur premier trio avec Patrice Bergeron qui a connu une saison monumentale au plan défensif. Je regardais là, pour les joueurs qui pourraient être des candidats au trophée Selke. Patrice Bergeron, à chacun des affrontements qu'il a eu contre Sidney Crosby, il l'a mis, pour reprendre l'expression de Richard Sevigny dans le début des années 80, il l'a mis dans sa petite poche. c'est assez impressionnant à voir. Écoute, Brad Marchand est au sommet de son art. Tu l'as mentionné, Taylor Hall également, qui s'ajoute au portrait. T'sais, ça leur donne vraiment une bonne force de frappe. Et puis, écoute, durant l'absence de Tuukka Rask, il y a quand même de jeunes gardiens qui se sont manifestés. Donc là, ils ont une belle profondeur devant le filet aussi. Donc, je trouve que avec la présence de Zdeno Chara au milieu de tout ça, c'est assez intéressant comme mélange et comme intrigue.
Est-ce que ça peut être une série d'unité spéciale? Parce que je regarde l'avantage numérique des Capitals de Washington, troisième avec 24,8% d'efficacité contre le désavantage, le deuxième meilleur désavantage numérique de la Ligue nationale, celui des Bruins de Boston, à 86% d'efficacité. Est-ce que c'est là que ça va se passer ou à 5 contre 5, selon toi?
Moi, j'ai toujours tendance à penser que ça joue à 5 contre 5. Puis je me souviens très bien à l'époque où Claude Julien était entraîneur-chef des Bruins de Boston. Il avait dit en pleine série éliminatoire, il dit, moi, si j'ai le choix entre avoir une bonne équipe à 5 contre 5, une équipe qui a un bon avantage numérique ou une bonne infériorité, il dit, je vais choisir dans l'ordre l'équipe qui est bonne à 5 contre 5, l'équipe avec une bonne infériorité, puis le bon avantage numérique, c'est de l'extra. Parce que tu peux pas. La majorité des matchs se passent à 5 contre 5. Souvent, il y a moins de pénalités qui sont appelées en séries éliminatoires. Alors, si tu te fies là-dessus pour générer de l'attaque, tu risques peut-être de te retrouver à court. Tandis que les Bruins de Boston à 5 contre 5 ont toujours été une équipe efficace. Alors, j'ai tendance à leur donner l'avantage à ce niveau-là.
Marc-Antoine Godin, est-ce qu'on se lance dans le jeu du nombre de matchs ou on dit juste Boston va gagner?
Non, c'est correct. Je suis tout à fait à l'aise avec le nombre de matchs.
OK, en combien?
Absolument. Puis, je te dirais en 6.
OK, Boston.
Pour ce qui est de Boston, absolument. En 6, il irait terminer ça chez eux, en fait.
Parce que,
oui, absolument.
Mais c'est drôle, Marc-Antoine, parce que moi, je trouve que le nombre de matchs, tu sais, ça va défaire. Exemple, quand on dit en 7, c'est parce que tu sais pas, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. En 6, il y a une équipe qui a dominé un peu plus que l'autre. Puis en bas de 6, c'est clair qu'il y a un des deux clubs qui était pas là. C'est pour ça que ça devient, tu sais, en quelque part, on sait que ça va être une guerre de tranchées entre oui, Washington et Boston. Ça, c'est sûr et certain.
Absolument. Ça va être, ça va être une longue série. Ça pourrait se rendre en 7. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu sais, j'évoquais les gardiens de but du côté des Bruins, mais il y a relativement un point d'interrogation aussi du côté des Capitals. Alors, tu sais, ils ont leur gardien de but, Vanecek, et jusqu'à un certain point, il est sorti de nulle part, puis il leur a fait du très, très bon travail. Normalement, Ilya Samsonov, c'est leur homme de confiance, mais, tu sais, il y a eu des blessures, je pense qu'il y a certaines questions à se poser aussi par rapport à ses fréquentations avec Evgeny Kuznetsov et leur histoire de COVID durant la saison. Mm-hmm. Est-ce que ça a été une distraction pour cette équipe-là? Ça reste à voir, mais écoute, ça va être passionnant. Puis souvent, j'ai l'impression que c'est en première ronde. Puis je crois que cette année, COVID, pas COVID, spectateur ou non, j'ai toujours l'impression que c'est en première ronde des séries éliminatoires qu'on voit le meilleur hockey dans la Ligue nationale.
Bon, mais allons dans l'autre série, dans l'Est. Les Penguins de Pittsburgh vont affronter les Islanders de New York. Durant la saison, Pittsburgh a dominé 6-2 face aux Islanders. Comment tu vois cette série-là?
Je pense que ça va se poursuivre de cette manière-là. Écoute, les Islanders vont leur donner beaucoup de fil à retordre. Puis on a toujours tendance, année après année, à sous-estimer les Islanders parce qu'on les regarde à chaque fois, on les regarde sur papier, on se dit voyons, ils sont pas de taille à rivaliser avec d'autres équipes qui ont les forces de frappe. Puis bon, c'est vrai qu'ils ont Mathieu Barzal qui est comme leur chef de proue en attaque, mais au-delà de ça, c'est une équipe qui en apparence est pas très impressionnante sur papier, sauf que c'est toujours avec Barry Trotz, c'est toujours une équipe qui est extrêmement bien rodée, très très bien menée. Ils ont un duo en défense qui s'est révélé parmi les meilleurs cette année, le duo Pelech et Ryan Pollock. Ces deux gars-là, ils mangent des minutes, ils ont donné du hockey extraordinaire aux Islanders. Alors, je pense qu'ils vont donner du fil à retordre aux Pingouins, mais les Pingouins, deuxième moitié de saison, ont été tellement bons, je crois qu'ils vont continuer sur leur air d'aller.
Pittsburgh en combien?
Je crois que là aussi, je mettrais Pittsburgh en 6. C'est ça. Alors, c'est un petit peu... je vais maintenir Pittsburgh en 6, comme je l'ai écrit. En fait, ils nous ont demandé chez Athletic de faire nos prédictions aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, c'est pour ça que j'ai hésité entre 6 et 7 pour Pittsburgh Islanders, mais je vais en 6 pour les Penguins.
Bon, ben parfait, numéro 1. Allons dans la centrale maintenant, le duel de la Floride. Écoute, ça va brasser, ça va être spécial. On sait que les blessés vont revenir du côté du Lightning de Tampa Bay, mais les Panthers ont un bon club, c'est bien bâti. Comment tu vois cette série-là? Les Panthers qui ont terminé deuxième, le Lightning de Tampa Bay termine troisième dans cette division-là. Comment tu vois cette série?
Ben, je pense que l'expérience du Lightning va y être pour beaucoup et c'est ce qui va leur permettre de remporter cette série-là. Mais ça, c'est une série que je mets sans aucune hésitation en sept matchs. Les Panthers, c'est pas des habitudes des séries éliminatoires. C'est une expérience qui est relativement nouvelle pour certains d'entre eux, ou du moins, ils n'ont pas beaucoup de millage en série. Et je pense que il y a la naissance d'une belle rivalité cette année. Je pense que c'est dans toute la Ligue nationale, quand tu regardes les rivalités à gauche à droite, c'est la meilleure nouvelle dans la Ligue. Et puis je sais que ça va faire plaisir à Gary Bettman parce que lui, il cherche toujours dans les marchés émergents de nouvelles rivalités, de nouvelles histoires. Puis d'avoir deux équipes en Floride qui, là, maintenant, sont de taille, sont toutes les deux bonnes. Elles sont dans la face l'une de l'autre à longueur d'année. Puis je pense que c'est un peu du gaspillage d'avoir cette série-là dès la première ronde, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ce qu'on retrouve. Mais je pense que la force de frappe du Lightning, la profondeur aussi sur plusieurs trios va faire la différence. Le top 6 des Panthers est vraiment pas à faire rougir le honte. Je pense qu'ils n'ont pas rien envie à personne. Mais je pense qu'au niveau de la profondeur du Lightning, ça devrait leur servir.
Dans l'autre série de cette centrale, c'est les Hurricanes qui vont affronter les Prédateurs de Nashville. Hurricanes premier, Nashville quatrième. Durant la saison, les Hurricanes ont dominé au chapitre des victoires 6-2. Est-ce que tu vois Nashville remporter plus qu'un match face aux Hurricanes de la Caroline?
Non, je pense que ça va se terminer en 5. Écoute, tout le crédit revient aux prédateurs qu'on donnait à peu près pour mort. Je me souviens, 3 semaines avant la date limite des transactions, tout le monde parlait du fait que Mathias Ekholm allait changer d'adresse, qu'il était la cible numéro un sur le marché des échanges. Puis là, tout à coup, malgré la quantité de blessés chez les prédateurs, ils ont trouvé un second souffle, puis ils ont réussi à se tailler pour les séries. Puis leur gardien, Yussi Saros, a été extraordinaire. Mais à un moment donné, tu regardes de l'autre équipe, de l'autre côté, les Hurricanes de la Caroline, c'est une équipe qui va être une prétendante pour la Coupe Stanley, puis je pense qu'ils vont tout simplement être trop forts. Alors, à chaque année, en première ronde des séries, il y a des surprises, mais je pense pas que ça va être du côté de Nashville que ça va jouer. Je pense que la logique va être respectée, puis les Hurricanes vont aller chercher cette série-là quand même assez aisément.
Il faut quand même faire attention parce que, oui, Nashville a dominé, pas Nashville, mais les Hurricanes ont dominé 6-2 cette année dans les victoires face à Nashville. Mais Nashville a remporté les deux derniers matchs, 3-1 et 5-0 contre les Hurricanes. Peut-être qu'on a levé le pied un peu du côté de la Caroline, mais faut pas les compter pour battus non plus. Mais bref, on aura l'occasion d'y revenir. Allons dans l'Ouest maintenant. Écoute, il y a deux gros clubs là, dans l'Ouest. Là. Il y a Colorado, il y a Vegas, et au moins, on ne s'affronte pas au premier tour, ce qui est une bonne nouvelle. Ça va permettre d'avoir ces deux formations-là un petit peu plus longtemps au deuxième tour. Donc, débutons avec la première série, l'Avalanche Colorado qui affronte les Blues de Saint-Louis, l'Avalanche 1, les Blues de Saint-Louis 4, et l'Avalanche Colorado qui a remporté le trophée du président pour la première équipe dans la Ligue nationale de hockey. Comment tu vois ce duel-là? Qui va gagner cette série-là?
Ben, écoute, je pense que les Avalanche du Colorado, qui est mon choix pour remporter la Coupe Stanley, devrait l'emporter. Ça va être une bonne série, je pense, pour que le gardien Philippe Grubauer fasse taire les critiques et puis démontre que tu sais il va être capable de faire la job, même si en saison régulière il était très bon devant le filet pour l'Avalanche. Mais c'est une équipe qui a tellement un bel équilibre. C'est une équipe qui est axée sur l'attaque, qui est très dynamique. T'sais, tu regardes leur ligne bleue, avec la quantité de bons patineurs qu'ils ont là, c'est une ligne bleue qui est construite complètement à l'opposé du Canadien, là, disons-le.
C'est rapide. C'est
rapide, c'est jeune. Ça bouge la rondelle énormément. Il y a beaucoup d'attaques qui se créent à partir de la ligne bleue. Alors, tu sais, évidemment, on a tous le nom de Cale Makar en tête, mais ça a été une excellente saison pour Samuel Girard. Devon Toews aussi, une super acquisition pour l'Avalanche. Tu sais, la question de savoir est-ce que ce groupe de défenseurs-là qui génère autant d'attaques et qui était si bon en saison régulière va être adapté pour le hockey des séries. Je pense qu'on va en avoir une bonne mesure avec les Blues de Saint-Louis. C'est une équipe quand même qui est toujours assez lourde, très pas la plus talentueuse, mais extrêmement compétitive. Je pense que c'est là où les Blues vont pouvoir faire travailler l'Avalanche beaucoup. C'est parce que c'est une équipe qui lève pas le pied, justement, puis qui va se batailler pour chaque pouce de terrain. Mais écoute, je serais très surpris qu'ils réussissent à venir à bout de l'Avalanche parce que c'est une équipe, comme je disais tout à l'heure, que je pense aller voir jusqu'au bout. Ben, le talent, l'expérience, tout est là du côté de l'Avalanche.
Colorado en combien?
En 6,
parfait, numéro 1. Ouais. Dans l'autre série, dans la division Ouest, le Wild du Minnesota, 3e, affronte la 2e position, les Golden Knights de Vegas. Quand même surprenant, Vegas qui a été dominant cette année, mais le Wild du Minnesota a dominé pendant la saison la série de matchs, 5 victoires contre 3. Comment tu vois ce duel?
Ben, écoute, du côté de le Wild du Minnesota, je suis pas sûr que tout le monde les voyait là avant le début de la saison. C'est un petit peu, encore là, c'est comme un peu les Highlanders, si tu regardes sur papier puis tu dis c'est pas super convaincant, surtout que c'est des joueurs qui ont, dans certains cas, qui ont déjà été bons, mais qui le sont moins, des gars qui sont vieillissants. Mais c'est tout un boulot de la part de l'entraîneur-chef Dean Evason qui est allé chercher le maximum de cette équipe-là cette année. Cela étant dit, écoute, les Golden Knights, c'est tellement une grosse machine de hockey. Je m'attends pas à ce que ça aille bien, bien plus loin que 5 matchs entre les deux formations. Les résultats entre les deux équipes durant la saison régulière, honnêtement, j'en prends et j'en laisse. Parce que là, je regarde, je sais pas exactement où le Wild va être capable d'aller chercher sa force de frappe pour marquer suffisamment de buts pour égaler ce que les Golden Knights vont donner. Puis on connaît tous le niveau supérieur que Marc-André Fleury est capable d'aller chercher en séries éliminatoires, donc ça pourrait être un autre très long parcours pour Marc-André.
Bon, ben écoute, on va terminer, puis je l'ai mentionné en introduction. Ce soir, on fait pas de prédiction sur la série entre le Canadien et les Leafs. On se garde ça pour la semaine prochaine. On aura la chance de se reparler. Allons-y avec l'autre série, les Jets de Winnipeg contre les Oilers d'Edmonton. Comment tu vois ce duel?
Ben, écoute, je pense que les Oilers vont l'emporter. Je le dis avec une certaine hésitation dans la voix parce que ça m'apparaît encore être une équipe qui est fondée sur deux joueurs. Mm-hmm. Tandis que les Jets, qui est beaucoup plus une équipe à maillon faible, qui n'est pas bâtie. Ben, en fait, elle a, c'est une équipe qui a quand même des joueurs élites, mais qui a quand même une belle profondeur. Mais je pense qu'en bout de ligne, ce qui va faire la différence, c'est que Connor McDavid et puis Leon Draisaitl vont réussir à percer cette défensive-là qui demeure le talon d'Achille des Jets. Et la question que je me pose en bout de ligne, c'est que si les Jets perdent au premier tour, est-ce que Paul Maurice va garder son emploi? C'est vraiment l'interrogation que j'ai. Alors, c'est une série qui va devoir se gagner sur le nombre de buts qui vont être marqués parce qu'il va s'en compter beaucoup, à mon sens. Alors, mais je crains fort pour Connor Hellebuyck qu'il soit à court de miracle. Donc, c'est pour ça que je fais pencher la balance en faveur des Oilers en 7 matchs.
OK, parfait. Les Oilers en 7 matchs, juste mentionner que les Jets viennent gagner leur match 4-2 face aux Leafs de Toronto. Et c'est Campbell qui était devant le filet des Leafs. Donc, ça sous-entend qu'on aura des conversations sur le gardien de but des Leafs de Toronto la semaine prochaine. Marc-Antoine, prépare-toi.
Ah, c'est sûr.
On va parler de ça.
C'est sûr.
Monsieur Godin, ce fut un plaisir encore une fois. Merci pour votre analyse des séries de la Ligue nationale de hockey. Puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Marc-Antoine.
Parfait, Jérémy. Bonne fin de soirée.
Bye-bye. Merci. Au revoir, Marc-Antoine Godin du site The Athletic.